Et allez, vous venez de rejoindre, soyez les bienvenus pour un début de semaine. Bonjour à toutes et à tous, c'est le mag de ce lundi que je partage aujourd'hui avec Didier Vallet. Bonjour Didier.
Bonjour David.
Grand spécialiste des plantes aromatiques médicinales, sommité fleurie de la biodynamie. D'ailleurs, je le dis souvent quand je vous présente ou quand on croise des gens en studio, que vous êtes l'un des pionniers de cette vision de l'agriculture, la biodynamie. Vous avez travaillé autour de la biodynamie depuis les années 80. C'est utile de le rappeler de temps en temps quand même, puisque c'est une niche, hein, en France. Je ne sais pas combien de producteurs en biodynamie il y a des...
Je ne sais pas combien on en est là.
Ouais.
Il y a beaucoup de viticulteurs, donc
oui, c'est vrai.
Je ne sais pas.
On en parle souvent aussi, et on en a parlé à l'occasion des 100 ans de la biodynamie.
Mais on est en dessous de 1000 fermes, disons.
Oui.
Quand même.
Et on est ravis de vous accueillir tous les 15 jours sur l'antenne pour nous en dire un petit peu plus sur la biodynamie. Aussi, vous êtes spécialiste des plantes aromatiques et médicinales. Et depuis cette fin d'année, on voit des filets. Alors, des boraginacées et maintenant, c'est les rubiacées. Et on a appris plein de choses. Alors, le gaillet, gratron, c'est ça. Plante à la fois touffue et aérée. Voilà. Et verticille, c'est ça. J'ai appris un mot. Hein, il y a deux semaines, je suis bien content. Ça veut dire qu'il y a plusieurs petites feuilles au même niveau qui entourent donc cette tige qui a pour particularité d'être carrée comme les labiacées.
Comme les labiacées, oui. Ces plantes, ce sont des plantes herbacées, c'est-à-dire elles sont pérennes, c'est-à-dire qu'elles repoussent tous les ans. C'est pas forcément à partir de la graine qu'elle repousse. Il y a des plantes comme qui vont repousser qu'à partir de la graine, qui sont des plantes annuelles. Mmh. Là, ce sont des plantes pérennes, ces rubiacées. Il y a un rhizome, il y a une racine, et ça repart à partir de là. Mmh. Mais l'hiver, eh bien, toute la vie est dans le sol, comme je l'ai dit souvent. En plus, cet hiver, on a quand même un hiver un peu, jusqu'à présent, qui a été un peu rigoureux, quand même. Il a mis du temps à s'installer, cet hiver-là, mais quand même, il y a déjà eu un petit passage de froid avec un peu de neige en novembre, ensuite décembre, janvier, début janvier, ça a été aussi froid. Et j'étais en train de réfléchir, en fait, on dit souvent, on parle de refroidissement, on parle de réchauffement, on parle de ceci, cela. Moi, ma vie, j'ai vu, il y a un espèce de rythme du froid, de la chaleur, des hivers très froids, comme par exemple sur très peu de temps, il y a eu en 2000, en 1985, c'est là qu'il y a eu un hiver où on a eu du moins 20. Dans Villefranche, toutes les canalisations étaient gelées dans les immeubles.
C'est quand le froid s'installe sur plusieurs jours. Hein, ça, janvier, c'est un petit
froid
peu froid
la nuit,
comptables.
Mais dans la journée, ça montait pas au-dessus de entre moins 5 et moins 10. Donc 1985, 2005, on a eu 1 mètre de neige.
Ah, c'était beau. Ah oui,
je me rappelle, c'était un samedi, j'allais partir au marché à Rodez. Je me suis levé à 5 heures, j'ai vu, il y avait 5 cm de neige. Je me suis dit, je vais attendre un peu pour partir. Et une heure après, il y avait 20 cm de neige. Je me suis dit, j'y vais pas. Je me suis dégonflé. Et tous les amis qui sont quand même allés au marché de Rodez, ils n'en sont pas repartis. Ils se sont tous retrouvés au campanile pour dormir le soir, parce que c'était impossible de repartir. Donc 20 ans après, 2005, maintenant 2025, hiver 2025-2026. Là, c'était 2005-2006, c'était 85-86. Il y a un petit peu avant, ça aurait été 65-66, là, je ne me rappelle pas. Il y a eu l'hiver 54 qui est connu parce que l'abbé Pierre avait fait son appel pour les sans-abri. Donc il y a comme des cycles quand même dans la nature. Alors est-ce que c'est des cycles de 20 ans? Est-ce que voilà, on n'étudie pas tellement ces choses-là. Hein. Donc en tout cas là, on a un hiver froid. Les jardiniers, les paysans vont dire c'est très bien, ça tue la vermine. Oui. Ça tue les parasites et aussi cette cristallisation qu'on peut avoir. Faut savoir, comme dans la neige, on dit que derrière la neige, c'est comme si on avait mis de l'engrais azoté dans le sol. Parce qu'en fait, que ce soit la neige sur le sol ou les cristaux qu'il y a dans les arbres le matin, là, quand la campagne est toute blanche, donc ce sont des structures cristallines qui vont capturer l'azote qu'il y a dans l'air. Vous savez quand même que dans l'air, il y a 80% d'azote, à peu près 20% d'oxygène, et puis après quelques traces d'autres gaz, sans parler des polluants, disons, si l'air est pollué, mais ces 80% d'azote, ils vont être capturés dans les cristaux. Un cristal de neige, c'est une figure géométrique bien particulière. Et quand la neige tombe sur le sol, cet azote qui est emprisonné va rentrer dans le sol et va nourrir le sol. Il va faire le même effet qu'un engrais azoté qu'on pourrait mettre. Et souvent, après un hiver comme ça, avec de la neige, avec du froid, on va avoir un printemps où les plantes vont pousser beaucoup plus facilement, quelque part. Donc, voilà.
Je ne sais pas quand commence la chronique exactement, mais j'aime bien ces premières parties d'émission. C'est imposé ça depuis quelques mois maintenant. Et je trouve ça très bien, avant de parler de ce qu'on a prévu, de faire un petit... c'est pas un billet d'humeur. Comment on pourrait appeler ça,
voilà,
une petite introduction?
Et là, on est en plein cœur de la biodynamie, en fait, parce que c'est essayer d'apprécier les saisons, essayer d'apprécier qu'est-ce que de la neige, à quoi elle peut être utile, d'où elle provient, ou des choses comme ça. Toute cette réflexion un peu sensible, c'est dans la biodynamie qu'on retrouve tout ça.
Et qui est nourrie par quelque chose, c'est quand il fait très très froid, en général, il n'y a pas souvent du vent, et c'est le silence aussi qui impose ce climat. Et là, c'est quand même, ça fait du bien pour... c'est aussi une autre sensibilité au niveau auditif, mais voilà, on capte le moindre son de la nature quand il y en a un, et ça c'est très très appréciable.
Totalement.
Alors quand il neige, alors c'est encore autre chose.
Oui.
C'est un vrai plaisir, en tout cas en ce qui me concerne. Bon, c'est parfait, ces petites introductions, c'est jamais quand la chronique commence, mais on a tout de même prévu de parler des rubiacées. C'est la nouvelle famille que vous nous proposez de nous faire découvrir, et notamment du gaillet gratteron. Ah yeah, je sais, je vais en mettre partout du gaillet gratteron. Je vais en mettre dans toutes les conversations. Une respiration musicale et on revient dans un instant sur la présentation de cette famille. Vous venez de nous rejoindre, rendez-vous intitulé « Des hommes, des plantes et de la biodynamie » et animé par Didier Vallet. Des hommes, des plantes et de la biodynamie. C'est la deuxième édition pour ce mois de janvier et nouvelle année 2026 avec Didier Vallet, si vous venez de nous rejoindre, grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleurie de la biodynamie, les rubiacées après les boraginacées, les rubiacées. Alors là, on est parfait. Et puis voilà, et puis avec ces feuilles verticilles. Moi, je suis toujours content de repartir avec des mots comme ça. Des fois, j'oublie leur définition et puis j'en mets partout, comme le gaillet gratron. Allez, j'arrête, je vous laisse la parole. On poursuit sur la présentation de cette famille.
Mais quand même, bonjour David.
Bonjour.
Je tiens à te faire tous mes compliments.
Ah bon, c'est vrai ?
Oui, parce qu'on a vu différentes familles et il y a une famille sur laquelle tu as bloqué les composés. Où tu es resté pendant des semaines
à dire
parler
complexe.
Des complexes. Et là, tu me sors des boraginacées. Pourtant, c'est pas ni complexe ni composé, ouais. C'est compliqué. Et rubiacées, oui, c'est pas dur, mais c'est pas quand même quelque
pas
chose.
Mais voilà. Je sais pas.
Et complexe, alors, je composé, parle pas des verticilles. Et, oui. Bon. Donc, voilà, oui, on parlait du gaillet gratron, on y reviendra un petit peu parce qu'il a aussi des propriétés médicinales quand même. À part d'être embêtant et de s'accrocher, on peut l'utiliser. Alors, je voulais, il y a 15 jours, et puis tu m'as dit que on n'aurait pas le temps, que le temps imparti était passé, donc on s'est arrêté là. Je voulais parler d'une plante... qui pousse en sous-bois. Alors, elle vraiment en sous-bois et dans les hêtres, sous les hêtres. Et le hêtre, il y en a beaucoup sur l'Aubrac, par exemple. C'est un arbre qui pousse en terrain acide, comme le châtaignier. Mais oui. Le châtaignier, on ne va pas le trouver en altitude. Le châtaignier, on va le trouver... Quand on monte sur l'Aubrac, on doit avoir du châtaignier jusqu'à 800 mètres à peu près d'altitude. Et après, c'est un arbre méditerranéen, quand même, le châtaignier, qui a été implanté dans nos régions. Mais il ne poussait pas spontanément ici.
D'accord.
Donc, le hêtre, on le trouve sur l'Aubrac, en terrain acide, donc terrain basaltique, et les hêtres, je ne sais pas si vous voyez, souvent on voit des posters de sous-bois avec des rayons de soleil qui rentrent dans les sous-bois, c'est toujours très, très joli.
Ça fait de belles photos quand il y a un peu de brume en plus.
Voilà,
alors là,
un petit peu
parfait.
De brume, et ça c'est le hêtre qui fait ça, c'est-à-dire dans une forêt de hêtres, même où les arbres sont assez serrés, le feuillage n'est pas complètement dense comme un chêne ou comme un noyer, par exemple. Quand j'étais petit, on me disait, faut surtout pas que tu restes sous un noyer, parce que on me disait, tu verras pas quand tu seras quand tu seras mort, tu verras pas. C'était ce qu'on me disait.
Ah oui.
Mais on dit que l'ombre du noyer n'est pas bonne parce que il y a vraiment pas de lumière qui rentre sous un noyer.
Et
les
puis il pleure aussi, non ? Le noyer pleure un petit peu.
Il laisse tomber, c'est surtout pour ça, il pousse beaucoup moins de choses sous un noyer, parce qu'il y a tout ce brou de noix qui dégouline des fleurs et des fruits aussi, et qui tombe sur le sol. Donc il y a différentes choses, mais le hêtre, c'est un arbre très joli, qui peut être assez biscornu, avoir des formes un petit peu de forêt de sorcellerie, en fait, je dirais, des formes très tordues, très bizarres. Et voilà, donc sur l'Aubrac, on a des forêts de hêtres. Il faut savoir que l'Aubrac, comme les Cévennes, il n'y avait plus d'arbres. C'est-à-dire que, alors sur l'Aubrac, je ne sais pas à quoi avaient servi les arbres. Dans les Cévennes, ça servait pour la construction des bâtiments de la Marine royale, qui se faisait à Aigues-Mortes, donc en dessous des Cévennes, en Méditerranée. Et donc les Cévennes, c'était des montagnes qui étaient complètement à nu. Il n'y avait plus d'arbres. L'Aubrac, il n'y avait plus d'arbres. Et ça a été replanté Alors, dans les Cévennes, on a replanté du pin sylvestre, parce que le pin sylvestre va bien là-bas. Et on a replanté des résineux sur l'Aubrac, plutôt épicéa, des arbres comme ça. Et petit à petit, les hêtres sont réapparus en dessous. Les résineux, parce que le hêtre il ne peut se semer que s'il y a de l'ombre en dessous. Donc le résineux faisait de l'ombre, le hêtre poussait, et petit à petit après
petite
les
synergie,
résineux
ouais.
Il en reste des forêts de résineux sur l'Aubrac, mais petit à petit les forêts de résineux ont été coupées et il reste des forêts de hêtres. Donc, alors les forêts de hêtres, pour dire l'ambiance, donc c'est une ambiance où il pousse, où le soleil arrive quand même à traverser, en été, quand il y a des feuilles aux arbres. Et puis, il y a un lit de feuilles mortes énorme. On marche dans 10 cm de feuilles mortes, parce que la feuille de hêtre met un temps très, très grand à se décomposer. Donc, il y a des feuilles sèches qui restent en surface, et sous ces 10 cm de feuilles sèches, de feuilles mortes, il y a des feuilles qui se sont décomposées, donc il y a un terreau tout noir, un terreau forestier tout noir, et là-dedans vont pousser des plantes. Alors on va trouver plein de plantes médicinales dans ces forêts de hêtres. Je vais ramasser régulièrement dans la forêt sur l'Aubrac pour le plaisir aussi. Et il y a deux plantes qui ont un peu des caractéristiques identiques dans leur manière de pousser. Elles font des rhizomes qui sont en surface, en fait, qui sont dans ce terreau tout noir de surface, en dessous les feuilles mortes, et qui peuvent faire plusieurs mètres de long, ces rhizomes. Alors, il y a déjà une plante de la famille des rubiacées qui s'appelle l'aspérule, aspérule odorante. Et puis, il y a le thé d'Aubrac.
Ah, le
qui ne fait pas partie de la famille des rubiacées, mais de la famille des lamiacées. C'est une labiée, c'est quelque chose. Alors, ce n'est pas une menthe, c'est un genre. J'aurais dû en parler, tiens, je l'ai oublié. C'est le genre calamenta. Donc, des calamants, on en a ici, mais ce calamant à grandes fleurs qui pousse sur l'Aubrac et qu'on trouve sur d'autres endroits, j'en ai trouvé dans les Cévennes, j'en ai trouvé dans les Alpes, dans les Pyrénées, je ne sais pas. En tout cas, il faut des montagnes acides, il faut des terrains acides. Il a une odeur mentholée, mais une autre odeur aussi que les gens disent. Moi, je trouve que ça a une odeur de feuilles mortes. Un peu de compost de feuilles. Il y a des gens, quand on leur fait goûter, ils disent « mais il est moisi, votre plante, elle est moisie parce que ce goût de compost, un peu. » Alors, pour en revenir à l'aspérule, il y a un autre lavier, un autre rubiacé, pardon. Alors, l'aspérule, c'est une petite plante qui fait 25 à 30 cm de haut. Alors, comme le gaillet gratron a fait une tige carrée, mais qui monte tout droit, qui est solide. Et puis elle fait toujours des feuilles en verticilles, c'est-à-dire des petits étages de feuilles qui englobent la tige carrée. Et il y en a.
Il n'y a pas qu'une tige, pour visuellement réexpliquer aussi. Il y a plusieurs départs, en fait, pour le gaillet gratron. Chose de touffu. Parce que c'est vrai qu'on entend tige, on a l'impression que c'est qu'une seule tige. Mais non, il y a plusieurs tiges,
qui peuvent partir du. Mais après, ça part aussi, comme c'est un rhizome souterrain, ça peut pousser tout le long du rhizome. Ça peut paraître très, très compact. Et l'aspérule, ça va être la même chose. Elle va faire. On peut avoir l'impression qu'il y a plusieurs tiges qui partent du même endroit, mais en fait, elles vont être à 2 ou 3 cm l'une de l'autre et à des points différents. Donc, on a cette plante. Alors, elle va pas. Comme elle pousse qu'à 25-30 cm de haut, vous voyez, c'est pas grand-chose, 25 ou 30 cm. Elle va pas faire beaucoup d'étages de feuilles. Elle va faire 3 ou 4 étages de feuilles. Et ensuite, la tige se sépare en 3... à peu près en 2 ou 3... se divise en deux ou trois, et chacune de ces petites tiges qui se sont divisées se termine par une petite fleur blanche, très discrète, avec quatre pétales. Donc voilà, et ça dans les sous-bois sur l'Aubrac, on va la trouver en fleurs et c'est à ce moment-là qu'il faut le ramasser. Moi je vais le ramasser à peu près au moment de la fête de la transhumance. La fête de la transhumance c'est vers le 20 mai, donc à ce moment-là la spérule est en fleurs. Après elle va donner encore des petites boules, ça va se terminer par des petites boules.
Du côté des propriétés
La spérule odorante, alors, elle n'est pas du tout odorante quand on la ramasse. Elle sent rien du tout.
Pour la frotter.
Pourquoi on l'appelle odorante ?
Eh oui, c'est ça. C'est...
Parce qu'en séchant, là, elle émet une odeur très, très forte. Il y a une molécule qui se forme au cours du séchage, qui est la coumarine. Ça s'appelle la coumarine, cette molécule. Et c'est une odeur... Vous voyez l'odeur quand, en été, là, les paysans fauchent les foins et qui les endènent ou qui les retournent. Il y a une odeur, cette odeur de foin qui est... Bon, disons, moi, je sais pas, je suis très sensible à cette odeur. Ça doit me rappeler des souvenirs d'enfance, mais une odeur vraiment très, très agréable, très aromatique. Et c'est ça l'odeur de la coumarine. Elle dégage une odeur de foin. Alors, les propriétés de la spirule, on la retrouve pratiquement dans toutes les plantes des rubiacées, hein, ces propriétés quand même, que ce soit dans le gaillet gratron ou dans la spirule d'autres gaillets qu'on va voir après. Il y a une propriété qu'on connaît pas trop, la racine permet de teindre la laine en rouge.
Oh ! Ah oui ! C'est pas rien.
Et on le retrouve dans une autre plante de cette famille des rubiacées, qui est la garance. Et là, c'est une plante tinctoriale. Et c'était avec cette plante qu'on teignait les habits des soldats de Napoléon.
Dingue.
Mais par contre, on va pas arriver au bout encore.
Non, mais c'est passionnant.
Spirule odorante.
Après le gaillet gratte-ciel, la spirule dans la famille des rubiacées, on commence sacrément bien 2026, Didier.
Je commence cette année 2026. Je suis un peu trop bavard, je crois.
Non, pas du tout. C'est passionnant. voilà, on a compris que l'une des propriétés, c'était de pouvoir servir de teinture. Une plante est aromatique, médicinale, comestible et bio-indicatrice aussi. Moi, j'aime bien cet aspect-là aussi de la plante, savoir pourquoi elle n'est pas là au hasard, cette plante. Elle pousse parce qu'il y a un écosystème, parce qu'il y a une biodiversité. Là, les feuilles,
c'est une approche holistique où on voit dans son ensemble, un milieu dans sa même ensemble, et une plante au milieu de son ensemble, quelque part.
Didier, on se donne rendez-vous au mois de février pour un nouvel épisode de la rubrique du rendez-vous des plantes, des hommes et de la biodynamie.
Et on continuera quand même la spirule odorante.
Ah bah oui, s'il vous plaît. Merci Didier.
De rien.
C'était la chronique de ce début de semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec Waldo Stephen pour La Voix du Milieu et l'intervention du jour sous peu en podcast sur le site cfmradio.fr. Allez, zoupe là.
CFM Villefranche, le mag.